La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
J'ai vu ça ce matin dans la presse, la guerre des chips, là. Oui. Tu dis, c'est quoi ça?
En fait, il neige beaucoup dehors, hein?
Ben oui.
La guerre des trucs, mais en épicerie, c'est la guerre des chips. Ça fait deux jours qu'on en parle. On en a parlé en Europe. Disons, en gros, là, ça illustre bien ce qui se passe derrière le côté bon enfant de l'épicerie, c'est-à-dire une guerre de placement de produits. Là, t'as Frito-Lay. OK, Frito-Lay, ça appartient à PepsiCo, qui négocie fort avec l'Obloc qui possède Provigo et Maxi pour monter les prix des chips. Et là, l'épicier dit non, nous autres, là, c'est pas vrai qu'on va imposer une hausse de même à nos clients, parce que si on le fait puis que nos concurrents le font pas, guerre de prix. Tu comprends qu'au Canada, on n'a pas à avoir nos petits commerçants de coin de rue, nos petits marchands, mais dans les gros groupes d'épicerie, c'est comme un oligopole. Hein. Puis là,
mais quand... Frito-Lay, là, c'est plusieurs marques, ouais, en
écoute,
plus.
Frito-Lay, là, c'est Lay's, Doritos, Cheetos, Fritos, Sun Chips. Hein? Il y a aussi tous les Ruffles cuits au four ou non, les Tostitos, donc les Cracker Jack. Donc, tout ce que tu vois, dans le fond, dans le rayon, à 70-80%, c'est une compagnie seulement. Et donc, c'est pour ça que Frito-Lay est rentré et les Lay's sont rentrés autant dans les couches tard. Ils se sont placés de façon dominante en négociant évidemment avec les épiciers, les dépanneurs. Et donc là, dans une épicerie, le deal, c'est une guerre de prix. C'est-à-dire que tu dis, je vais te payer pour placer mon produit. Je vais te payer de plusieurs façons. Ça peut être en redevance, ça peut être je te paye pour placer mon produit ou je te donne un vraiment gros rabais sur l'achat. Mais là... Quand une compagnie atteint une position dominante comme ça dans la représentation de ton épicerie, puis qu'après ça, tu as une guerre de prix, ben là, il y a un problème d'approvisionnement. Puis c'est ça qu'on est en train de parler. Puis j'ai parlé de m'amener avec un monsieur à l'épicerie, il m'aborde comme ça, puis il me dit « Hey, salut, tout ça. » Il dit « Moi, je suis un intermédiaire qui essaye de placer des produits en épicerie pour mes clients. » Je dis « Pardon? » Il dit « Ouais, regarde-moi, là. » Il dit « Ici, là. Je vais payer une coupe de mille là, pour placer ce produit-là ici. » Donc, lui, il dit « Rentrer dans une chaîne. » C'est un enfer pour un petit produit parce que non seulement il faut que tu négocies ta place, non seulement il faut que tu payes implicitement pour être là, mais en plus, il faut que tu livres la marchandise parce qu'après ça, ça te prend du volume puis de la marge. Et donc, derrière notre côté enchanteur de l'épicerie Paul, il y a les flancs, c'est pas une raison
pour ça. Mais ça veut dire, si je vais chez Provigo, là, il n'y aura pas de Doritos.
Mais il en reste.
Bon, OK, il en reste, mais mettons, j'y vais dans deux semaines. Là.
Ben, s'il règle pas le conflit, c'est ça qui va arriver. En fait, ça ressemble un peu à t'avais Visa et Walmart il y a quelques ouais. années.
Mais c'est quoi le réflexe du consommateur, tu penses?
Mais moi, je comprends les deux côtés. Je comprends, un, que tu veux augmenter tes marges avant que tes contrats à terme viennent à échéance puis que ton prix des patates augmente chez Frito-Lay. Puis de l'autre côté, je comprends l'épicier qui dit « Mon client, là, les chips, là, c'est un produit fort. C'est un produit qu'il connaît puis qu'il connaît les prix. Et donc, ça influence sa perception de ce qui est cher et pas cher dans mon épicerie. D'ailleurs, Paul, je dois t'avouer une confession. Pendant la pandémie, je suis tombé dans les chips. Moi, ça a été comme ma façon de couper la pandémie. Et donc, effectivement, tu connais tes prix de chips. Mais quand tu regardes les états financiers de l'Obla, mettons le dernier trimestre, 16 milliards de revenus, 488 millions de bénéfices, tu te rends compte qu'en pourcentage, c'est une marge opérationnelle de 5-6%, puis une marge nette de 3%. Donc, effectivement, l'épicier a une bien plus grosse pression sur la négociation de prix que son fournisseur, parce que PepsiCo, de l'autre bord, eux, font des plus grosses marges. Parce qu'il n'y a pas de produit de remplacement. Quelqu'un qui tripe sur le Pepsi, t'as beau essayer d'y vendre du RC Cola, il veut du Pepsi. Et donc, la marge de Pepsi opérationnelle, elle est à 14%, puis 9,5% de marge nette. Alors, le fournisseur des chips, disons, un plus gros pouvoir ici que Lobla, parce que sa marque est tellement populaire et les gens sont tellement habitués qu'il crée une pression sur le détaillant. C'est quand même spécial.
J'allais dire, ils ont juste à mettre, comme ils font souvent, moins de chips dans le sac.
Voyons, Paul. T'es-tu en train de me parler de réduflation, toi?
Ben oui. Non, ben
écoute moi, c'est quand je vois des enveloppes de fromage où il y en a toujours eu 24. Tu sais, t'achètes 2 douzaines de hamburgers, là, puis t'as 24 fromages dans un paquet, là, tu sais. Mm. Et là, il y en a 22.
Ah.
Hein, ou un 2 litres qui devient un 1,89
litres. Oui.
Moi, j'adore ça, hein, les sacs de chips qui perdent 6 grammes. Mais c'est à cause de quoi? Encore à cause du maudit consommateur qu'on est, qui veut toujours garder les mêmes prix. Donc, on trouve une façon de nous accommoder.
Donne-moi ton 2$, mais t'auras moins de chips.
C'est ça.
OK, tu regardes des titres boursiers populaires qui se sont fait brasser depuis le début de l'année.
Bien, en fait, ce que je regarde, c'est que depuis le début de l'année, si vous regardez votre portefeuille, c'est un peu bipolaire. Ça bouge pas mal. Et ce qui a été payant dans les dernières années est chancelant un peu. Exemple, avec l'inflation, avec le risque de hausse de taux d'intérêt, il y a des entreprises qui sont frappées, et plus les technos. Donc, si tu regardes, par exemple, Facebook, évidemment, il y a tout le problème du maintien du nombre de clientèle puis du volume. Mais depuis le 1er janvier, là, 1er janvier, on s'est entendu que c'est hier, 38% de baisse boursière. Donc, ceux qui ont misé dans Facebook se sont fait mal. Netflix, depuis le 1er janvier, 36% de perte. Et donc, il y a une dame qui m'écrit l'autre fois, elle dit « Hey, mes actions chutent, mais étaient concentrées de techno. » Puis elle, tu parlais tantôt avec Jonathan du point Godwin, c'est-à-dire de parler d'Hitler. Elon Musk est tombé dedans cette semaine.
Ben oui.
Et donc, l'entreprise aussi a baissé, pas pour ça, mais l'entreprise est en baisse de 17%. Et donc, tu vois que la folie est techno durant la pandémie, se calme, il y a une petite redirection boursière. D'ailleurs, Zoom, qui est un excellent exemple. Zoom, qui nous a comme excités au niveau boursier en disant, hey, on va virer là, la maison, puis on va tout vivre dans nos sous-sols. L'action était montée jusqu'à 560$ environ en 2020. Là, on est à 130$. Mmh. Donc, depuis le début de l'année, tu as perdu 30%. Mais imagine quelqu'un qui se concentre techno, puis qui hérite la Banque Royale, qui, elle, évidemment, la Banque Royale a pris 5% depuis le début de l'année, ben, puis qui se diversifie pas assez. Ben, il voit sa retraite chuter d'un coup en un mois, puis même si ça remontait de 10% après, faut pas oublier que tu baisses de 30, tu augmentes de 10, mais le 10, c'est un plus bas niveau de départ. Et donc, il y a de la mouvance, là. Et pas même le Bitcoin depuis le début de l'année, 13-14% de perte. Donc, c'est quand même, faut pas regarder ça de trop près, mais encore une fois, les vieux sages vont vous dire, vous voyez, on vous l'avait dit, vous avez beau faire de l'argent avec vos titres techno, la diversification des fois d'un secteur plate comme les banques puis d'autres secteurs qui vendent vraiment du stock souvent, ça peut vous aider.
Merci, monsieur. Bonne fin de semaine.
Bonne chance pour vos chips en fin de semaine.
Oui, c'est ça. Money.
C'est 23.